France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Sébastien Kérouffi, bonjour Claire Le Chevalier. Je suis émue de pouvoir échanger avec vous sur cette adaptation de Par les Villages qui est l'un des ouvrages que j'ai le plus offert. Ouf, quel casting, quelle interprétation, quelle diversité dans les propositions artistiques.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En 1981, l'auteur autrichien Peter Handke publie Über die Dörfer, Par les villages, un poème dramatique dans lequel Georg, personnage d'écrivain, retrouve mais ne retrouve pas tout à fait, et c'est tout l'objet de l'histoire, son village natal et les siens, l'Issy-Pays. Un peu plus de 40 ans plus tard, le metteur en scène Sébastien Kérouffi s'empare du texte et s'il change le décor, il ne change pas les mots ou à peine. Et c'est la langue qui importe le plus dans cette affaire, elle est en chantier, comme le paysage, elle demande recomposition. Le metteur en scène est notre invité en compagnie de l'universitaire Claire Le Chevalier. Vers 15h50, comme chaque mercredi, nous retrouvons la journaliste Nicole Vulser. Elle éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, elle nous parle du petit club des libraires de musées, un marché dont elle décortique les spécificités. Et en fin d'émission, nous jouons avec vous au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans les livres. Nous sommes ensemble pour une heure, Par les villages. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Sébastien Kérouffi.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène après le Festival d'automne au Centre Pompidou à Paris. Votre mise en scène de ce texte Par les villages de Peter Handke est en tournée. On mettra les dates sur la page du Book Club. Ce sera à Ivry, en tout cas ces prochains jours. Ce sera au cœur de notre conversation. Mais ici, on commence d'abord par présenter nos invités par la relation qu'ils ont eue ou pas eue ou différemment eue avec les livres. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Waouh.
Et si c'était bien ?
Bah ouais, mais c'est fou parce que je crois que j'ai aucun souvenir de l'apprentissage. La question de l'enfance a déjà quelque chose de douloureux, mais la forme de l'apprentissage, enfin de la lecture, je crois encore plus. Enfin, je peux dire quelque chose de qui se mélange. J'ai plus les images ou le rapport à la matière, mais le rapport aux mots réels. J'arrive pas à me souvenir.
C'était quoi les images alors ?
Bah, c'était les images d'un livre sur une table. Mais toujours lié à l'école. J'ai pas de rapport de lecture à la maison. Où c'est, la littérature n'est pas liée à la famille. C'est lié à l'école. C'est lié à l'école.
Et ce lien à l'école, c'est un lien heureux ?
Non, c'est un lien forcé. Très honnêtement. C'est un lien forcé. Et donc donc la lecture, je dois lire. C'est pas je peux lire, c'est je dois lire. Et donc forcément ça déplace aussi le rapport aux premières lectures. Et je me rends compte que
mais comme si vous y résistiez parce que c'est forcé.
Complètement. Je pense qu'il y a quelque chose, le fait de devoir faire fait qu'il y a quelque chose qui évidemment force. Enfin, j'ai voulu ou j'ai pas voulu justement rentrer là-dedans, quoi. Donc,
Et alors, à quel moment vous y entrez, si vous y entrez ? Par quelle porte ?
À 24 ans. À 24 ans, j'y rentre par justement ce que je raconte. J'ai l'impression que le premier livre que j'ai lu du début jusqu'à la fin, c'est Par les villages. Mais vraiment, c'est ça qui...
Mais ça, c'est quelque chose d'une sorte de légende dans l'après-coup, vous diriez, où vraiment, il n'y a aucun livre qui vous est passé dans les mains ?
Bah, c'est marrant parce que j'ai croisé un ami il n'y a pas longtemps et on parlait de ça justement. Il me dit, mais attends, interroge-toi réellement. Est-ce que c'est vraiment, genre même factuellement...
C'est possible, hein ?
Ouais, c'est ça. Je me dis, mais est-ce que c'est quelque chose que... Je me dis, j'ai lu à ce moment-là un texte pour la première fois et après je me suis dit mais attends, quand est-ce que j'ai réellement lu? Et je me rappelle que je passais plus de temps à chercher le résumé des livres qui étaient imposés à l'école qu'à réellement les lire. C'est-à-dire que rarement ça passait la première page, donc évidemment j'ai lu, mais il n'y avait pas de magazine à la maison, pas de livres.
Vous n'alliez pas à la bibliothèque municipale?
Non, j'y allais pas, ou j'y allais parce que au collège. La première fois que je rentrais à la bibliothèque municipale, c'est parce que fallait faire des résumés, enfin, en cours de français. Et donc, il y avait quelque chose de devoir. Le devoir de lire. Et il n'y avait pas quelque chose qui était un livre dans un coin, on s'y approche. Cette relation sans obligation. Non. C'est grâce à Par les villages que j'ai découvert la lecture sans obligation.
Alors, on va revenir à Par les villages et on va le faire longuement dans notre conversation. Donc, on va mettre de côté ce premier coup de cœur. Mais si ça vous ouvre la porte vers la lecture, Sébastien Kaoufi, dans ce cas-là, vous découvrez quel monde et avec quelles sensations et vous allez vers où?
À quel moment?
Bah, vers 25 ans, du coup.
Ouais, bah, en fait, mais je pense pas être le seul, en plus.
Bien sûr que non.
Je pense pas être le seul de pas avoir, être passé à côté de la lecture jeune. Et donc, il y a quelque chose, il y avait pas l'histoire même au lit. J'ai pas de souvenir de une histoire qu'on te raconte au lit. Peut-être parce que j'étais le plus petit de ma famille, de cette fratrie de trois frères. Et donc, c'est fou comme si c'est à cet âge-là, à 24, 25 ans, où je me dis, j'y ai accès parce qu'il n'y a plus d'école.
Est-ce que la place de l'imaginaire était ailleurs, pour autant? Est-ce que vous avez l'impression qu'entre le moment, on va dire, la petite enfance, 4-5 ans, et ces fameux 25 ans dans lesquels on arrivera plus tard parce que c'est un moment pour vous d'accès au texte, etc. Pour autant, est-ce que l'imaginaire est absent?
Pas du tout.
Les mondes de l'ailleurs? Et quelle place il trouve alors?
Non, pas du tout, parce que je pense que... Mais en plus, j'ai... Parce qu'après, j'écoutais beaucoup de musique. J'écoutais beaucoup de rap. Et en plus, à ce moment-là, je me disais... Mais je pense que la lecture, elle est passée par les oreilles. Mm-hmm. Elle est passée parce que j'écoutais ces rappeurs, ces rappeuses. J'écoutais la musique. J'ai rarement écouté des musiques que je comprenais pas. J'ai toujours écouté des musiques françaises.
Donc le texte, fort.
Complètement, toujours. J'ai toujours eu un rapport où...
Vous écoutiez quoi?
En musique, j'écoutais...
Et qui vous racontait quoi?
Bah, j'écoutais les rap. C'est fou, j'écoutais du rap à fond. Mm-hmm. J'écoutais du rap à fond et qui parlait justement de... beaucoup de rap justement, mais en même temps très mélancolique. Qui parlait justement d'un rapport de rage, de révolte et en même temps de tristesse. Enfin, c'est comme si dans les oreilles, dans cette intimité-là, j'avais le droit d'avoir accès à certaines émotions.
Avec un goût pour les mots qui passait par là.
Avec un goût forcément par les mots parce qu'il y a quelque chose dans le rap aussi, surtout. Enfin, moi, je suis dans les années 90, donc il y avait quelque chose de même du texte. Vraiment fort. Et donc, avec un goût pour les mots. Et je me rappelle qu'après, j'allais chercher des fois les paroles des chansons. Et donc, la lecture est arrivée par la musique. Et après...
Alors, je reviens à 25 ans, du coup.
Ouais, complètement.
Donc, il y a Peter Handke, Par les villages, grand choc de lecture, tellement grand qu'on est là quelques années après pour parler de la mise en scène que vous en faites. Est-ce que ça vous donne envie de lire autre chose? Et quoi?
Après... L'imaginaire, il a toujours été présent, et à partir du moment où j'ai découvert la littérature, c'est comme si cet imaginaire, c'est comme si dans la tête, là, j'avais les choses posées sur des feuilles, quoi. Ces mots-là donnaient matière à l'imaginaire. Et donc, c'est pour ça que très vite, quand je lis, moi, Par les villages, j'imagine pas un village autrichien. J'imagine mon quartier. Et donc, cet imaginaire rencontre cette littérature. Et après, par contre, je lisais un livre par jour. Après, je suis rentré en école supérieure d'art dramatique à Paris. Et par contre, là, le devoir... c'est fou, je dis le devoir alors que je voulais dire le désir. Non, mais c'est fou, cette question de... Je me rappelle,
C'est le devoir qui se transforme en désir.
Ouais,
mais il doit en rester un petit peu, parce que le mot, il vient quand même.
Mais parce que je reviens en école, en fait. Parce qu'à 25 ans, je retourne en école, et je me rappelle, on m'avait invité, on avait dit, parce qu'on a, on avait des invitations pour des places, et on m'a dit, qui veut aller voir ce soir, Les femmes savantes de Molière? Et moi, à ce moment-là, je savais pas que c'était de Molière. Et je dis, mais c'est de qui? Et il y a le rire, mais le rire, pas méchant. Pas du tout méchant, mais le rire de...
Étonnement.
Et l'étonnement dans le regard des autres m'a ramené à un endroit d'humiliation intime. Pas lié...
À eux,
mais rien à voir. Rien à voir. Mais lié à un endroit de... Ok, à quel point je vais devoir travailler. Et à partir de là, je me suis dit, je vais lire... Dès qu'on va me parler d'un texte, je vais l'acheter et je vais le lire. Et donc, j'ai commencé même la question de la bibliothèque, de l'objet livre. Parce qu'au début, Et ça, je m'en excuse, mais je volais les textes à la médiathèque, justement.
C'est-à-dire carrément que, à la médiathèque, pas à la librairie,
non,
c'est marrant.
Non, ouais, complètement. Mais c'est vrai, hein. Et je me rappelle...
Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous n'a jamais oublié rapporter un livre à la médiathèque.
Parce que le premier objet livre, il n'est pas lié à la librairie pour moi.
Mais pour beaucoup d'entre nous.
Il est lié à la médiathèque. Il est lié à la médiathèque de la ville. Et parce qu'on se dit, on peut l'emprunter. Et après, des années plus tard, j'ai déposé un sac de livres que j'avais volé et je les ai redéposés à la médiathèque. Mais il y avait ce truc d'objet que je voulais garder comme une trace. Comme une trace de celui-là, je l'ai lu. Celui-là, je l'ai lu. Et en fait, je voulais rattraper ce retard-là et plus sentir ce sentiment de d'humiliation de ne pas connaître, de se dire je peux connaître, mais ça n'empêche pas que j'oublie moi ma culture qui a fait que parce que de 4 à 25 ans il s'est pas rien passé pour moi culturellement. Ça veut dire que la question de la musique, du rap, la question même de la variété française, mais même les Balavoines, tout ça, il y a quelque chose que dans les cités on écoute beaucoup de variétés françaises, beaucoup. Il y a cette question de des films, le rapport au cinéma, le rapport même à la danse, le rapport même au dessin. Bref, il y avait toute cette culture là, mais c'est comme si j'avais pas eu accès à cette forme là de littérature. Et donc après première année, j'ai lu, mais je pense chaque jour je voulais lire une pièce de théâtre.
Et ça vous plaisait?
Ça me plaisait, mais par contre, ça me renvoyait à un endroit de... pourquoi mon récit, il n'est pas là-dedans? Je me disais, mais pourquoi, en fait, ça parle... Par les villages, le premier texte que je lis, je pense, heureusement que j'ai lu ça. Parce que je me suis dit, putain, ça parle de... Ça peut me parler. Il y a une possibilité de m'identifier. Alors que le reste, après de pièces de théâtre, je me suis dit, mais chez moi, j'ai pas de roi, j'ai pas de chevalier, j'ai pas de... Cette question d'imaginaire, ou même sur des textes plus contemporains, où je me disais, mais pourquoi on parle pas de nous? Et après, très vite, donc je posais ces questions-là, on m'envoyait vers du théâtre documentaire, et après, pareil, là, je me retrouvais pas là-dedans, parce que je voulais pas jouer ma propre histoire en permanence, quoi.
Est-ce que vous lisiez de la poésie, du roman? Est-ce que vous lisiez autre chose que du théâtre? Ou parce que vous étiez en école de théâtre, c'est ça qui vous a happé?
Au début, j'ai lu que du théâtre. Mais que du théâtre. Et petit à petit, le théâtre m'a amené vers d'autres formes de littérature. Et donc après, la poésie. La poésie, le roman, mais le roman très peu. Le roman très peu, des essais beaucoup, beaucoup des essais. Après, je suis allé vers une littérature politique, mais je suis revenu vers la poésie.
Aujourd'hui, la lecture, elle occupe quoi comme place dans votre vie?
Elle occupe une place d'intimité, une place d'un endroit de solitude.
Et vous la chérissez?
Ah, mais complètement. Mais complètement parce que il y a quelque chose de... Ouais, je pense que lire, ça m'a permis déjà de pouvoir écrire. Parce que je me rappelle au début, même pour écrire, c'est-à-dire la question de... Je mettais une heure pour écrire un simple mail. Parce que c'est un handicap aussi de faire des fautes à chaque mot. Parce que aussi très vite, l'arrivée en école m'a permis de découvrir un autre environnement social. C'est-à-dire qu'au début, quand tu parles avec tes potes par texto et tout, donc il n'y a aucun souci, j'avais pas de honte là-dedans, et c'était pas un handicap. Et après, très vite, quand on se dit, je vais devoir parler à d'autres personnes. Et en fait, les mots sont un outil merveilleux, mais peuvent être un handicap terrible. Et de ces mots-là, je me suis dit, mais plus je lisais, plus j'avais des outils, et plus cet handicap s'éloignait. Et je me suis dit, mais c'est fou à quel point ces mots, ces livres sont une béquille de vie. Sont un endroit de qui vont m'accompagner et c'est tellement vaste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je sais que...
Ça, c'est beau au moins, il n'y a pas de fin, on sait.
Je sais que voilà, il n'y aura pas de fin là-dedans.
On va parler de votre mise en scène de Par les villages de Peter Handke juste après ce morceau de Kazek qui s'appelle Chez moi, parce qu'on va beaucoup parler du Chez moi. Il est sorti en 2006 sur son album Tragédie d'une trajectoire. Et dans votre mise en scène, Kazek interprète le personnage de Nova. On va en parler aussi, elle porte une sorte de parole oraculaire, une prophète, quelqu'un qui dit le passé comme le futur. Elle clôt cette pièce dans un monologue sidérant de beauté. On l'écoute ici, dans sa musique.
Connais-tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine? Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne? Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine? Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Personne n'a jamais pris la peine de dire un mot sur cette région. Demain, nous ne serons peut-être rien. Après-demain, nous serons morts et enterrés et ne serons pas même une note dans les livres d'histoire. Passons par les villages cet après-midi dans votre book club sur France Culture. C'est le titre d'un texte que l'auteur autrichien Peter Handke publie en 1981. Un homme fait retour dans le village qu'il a vu grandir, lui et ses frères et sœurs. Ce retour ouvre un chantier de paroles, comme en écho du véritable chantier auquel participent des ouvriers et qui atteste de la transformation du paysage. Dans ce chantier de paroles, on entend résonner le désir d'être enfin dit, mis en mots, raconté, en même temps que le refus d'être emprisonné dans la langue de l'autre. On entend le droit à l'énigme, l'aspiration au retour, en même temps que l'impossibilité de ce retour au même. On entend aussi, et peut-être avant toute chose, la puissance poétique de la langue de Handke. Sébastien Kéroufi, vous signez une mise en scène du texte de Peter Handke. On peut la voir au Théâtre des Quartiers d'Ivry du 22 au 25 janvier 2025. Il est en tournée, ce spectacle. Il a été joué plusieurs fois, par exemple, au Centre Pompidou à Paris. On va continuer d'en parler avec vous, mais aussi avec Claire Le Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à distance. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Caen. Vous avez aussi consacré un article à ce texte de Peter Handke en 2018. Sébastien Kéroufi racontait le choc qu'a été la découverte de ce texte pour lui à l'âge de 24 ans. Est-ce que vous souvenez-vous la première fois que vous avez lu Par les villages de Peter Handke?
Oui, je m'en souviens très bien. Et ça me touche d'autant plus que précisément, c'est un étudiant de 24 ans, en fait, à peu près, qui m'a fait découvrir ce texte à travers un travail qu'il avait fait, en fait. Et moi, je commençais à enseigner à la fac et je venais de finir une thèse sur les traductions des tragédies grecques. Et j'ai été frappée, en fait, par deux choses, on peut dire. Par tout d'abord, la force poétique du texte là, dont vous parliez à l'instant. C'est-à-dire par la beauté de la langue, qui envahit, on peut dire, qui éblouit, en fait, et précisément aussi grâce à la traduction de Georges Arthur de Suite. Et d'autant plus aussi que cette langue permet d'appréhender avec une grande précision en fait les couleurs, les formes, et en même temps qu'elle a cette ampleur épique qui nous permet une sorte d'arrachement. Et donc il y avait ce mouvement d'arrachement en fait qui va contre toute assignation, qui va tout contre tout isolement en fait, et qui permet progressivement une forme de commun. Hein, donc à travers le discours de Mouva dont on va parler, qui m'a frappée. Et alors bon, c'était peut-être contre-intuitif. C'était contre-intuitif de dire ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai rapproché de Claudel, du premier Claudel, c'est-à-dire de la pièce Tête d'or, qui commence aussi par ce mouvement d'arrachement et qui commence aussi par ce mouvement d'ampleur lyrique et dans lequel, en fait, Claudel cherche une forme théâtrale à travers le poème. Et il se trouve que il y a cette proximité, en fait, chez Préteur en queue, dans le fait de chercher aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une forme théâtrale à travers le poème. Et c'est en fait cette dimension-là qui m'a accrochée. C'est-à-dire que j'ai suivi Préteur en queue dans cette recherche, on peut dire, de forme théâtrale.
Oui, parce que ce qui est assez marquant dans la lecture que vous en faites pour cet article de 2018, c'est que, pour aller vite, et je vais vous laisser le soin de détailler, vous rapprochez le retour de Georg, ce personnage-là, qui fait retour au pays natal, au pays de l'enfance, d'une forme de retour en arrière, mais c'est pas tout à fait le cas, de Peter Handke, qui irait visiter des formes classiques, des formes antiques, des formes tragiques, pour revivifier son théâtre. Est-ce que vous pouvez juste développer ce petit point-là, Claire Le Chevalier, avant qu'on écoute un premier extrait de la mise en scène de Sébastien Kérouffi?
Oui, absolument. Alors, il se trouve que Peter Handke, en fait, au moment où il écrit Par les villages, a commencé à traduire, a commencé une activité de traduction, et en même temps a commencé une activité de lecture, enfin, qu'il entretient depuis longtemps, hein, mais de lecture des tragiques grecs et de lecture des textes grecs, et que cette lecture, il en apporte des traces dans des notes qu'il va publier ensuite dans un recueil qui s'appellera L'histoire du crayon.
J'ai pas entendu le titre.
L'histoire du crayon.
L'histoire du crayon.
D'accord.
Et il va effectivement, en fait, faire résonner sa lecture dans la pièce. Alors, je sais pas si c'est volontaire, si on peut parler de cette manière-là, mais moi, c'est aussi ce qui m'intéresse précisément, de voir comment les lectures précisément des textes grecs, des textes antiques, peuvent sourdre à travers les textes contemporains. C'est-à-dire non pas de voir, il ne s'agit pas surtout pas de dire que c'est une adaptation ou une réécriture en fait d'une pièce grecque, mais de voir comment ce qui est de l'ordre de l'antique va rejaillir en fait, va même jaillir, affleurer, on peut dire, dans le texte contemporain. Et c'est renforcé par le fait que Par les villages, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé avec L'en retour, dans lequel effectivement Peter Handke dialogue ou est accompagné par l'Odyssée. Voilà, donc il y a ce mouvement de retour qui est en même temps thématique et en même temps, on peut dire, formel. Voilà, exactement.
Est-ce que cette apparence du théâtre antique ou de la tragédie ou même peut-être disons-le, je sais pas, de la figure de Ulysse qui fait ce retour ou un possible retour, c'est quelque chose qui vous a attrapé dans le texte ou dans les échanges que vous avez pu avoir Sébastien Kérouffi avec Peter Handke?
Bah, au début, la première fois que j'ai lu, évidemment que non, parce que j'avais pas ces références-là. Et plus je suis rentré dans l'œuvre, et plus, enfin, c'était quelque chose qui était complètement présent, enfin. Évidemment, ce retour-là, sur la question aussi de... c'est ça, la tradition du théâtre antique. Peter Handke qui a traduit aussi Eschyle. Enfin, plein de choses. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de la tragédie qui était pour moi, mais tellement évident. Enfin,
parce que aussi archétypal, parce que comme aussi une sorte de...
Sur la question même de le fait de faire parler les personnages devant les lieux. De ça, c'est le prologue, devant le rideau, devant le chantier, devant le cimetière. Donc il y avait quelque chose aussi de cet ordre-là qui était extrêmement puissant. Et pour moi, la question même des offensés, des exploités, des humiliés, elle est tragique. Elle est tragique. Elle surpasse le drame, elle surpasse les larmes. Et donc en ça, moi, quand je vois Sophie, je vois une tragédienne. Quand je vois Grégoire, je vois un tragédien. Enfin, vous voyez, il y a cette question-là de qui est pour moi là en permanence, la tragédie.
Oui, c'est ça. C'est très ancien, au sens
très ancien et en même temps très actuel. Mmh. Enfin, sur la question, pour moi, la tragédie, elle est
permanente.
Elle est permanente. Elle est permanente. Et c'est pour ça qu'il l'a nommé aussi pour moi, je pense, la question poème dramatique. Mmh. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans le drame.
Comment il accueille votre proposition ou votre demande? Vous lui écrivez même le mot nécessité, Sébastien Kerroufi, de mettre en scène son texte, Peter Hanke.
Il accueille ça avec le sourire. Il accueille ça avec le sourire, avec beaucoup d'humour et avec
de l'humour pour que ça le fait rire.
Bah parce que en plus je lui dis, moi je connais pas l'Autriche. Enfin, je vais faire dans une cité. Ouais, ça le fait rire parce que tout de suite on parle. Je lui dis, autour de la question de l'immigration algérienne. Peter Hanke a appris l'arabe. Enfin, il y a plein de choses. Donc moi, Peter Hanke, enfin, nos échanges sont remplis d'humour. Sont remplis d'humour, donc il accueille ça avec de l'humour et à la fin beaucoup de bienveillance. Mmh. Et en même temps, on n'en parle pas, il veut pas en parler aussi. Et en même temps, on ne fait qu'en parler.
Vous ne parlez pas du travail que vous faites autour de son texte.
On en parle sans en parler dans le sens où il veut jamais rentrer dedans. Enfin, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi douloureux dans les dans cette écriture-là. Enfin, on sent que c'est écrit avec la douleur. C'est même ce que nomme Peter dans l'histoire du crayon aussi. À un moment donné, il dit qu'il y a quelque chose de douloureux. Et quand Grégoire et Sophie terminent la pièce en disant « la douleur est là », je pense que c'est ça qui fait qu'on est dans une tragédie permanente, c'est que la douleur ne part pas.
On écoute un extrait de votre mise en scène.
Grand esprit du tout du haut, descends-nous aujourd'hui sur nous. Laisse-nous planer un peu au-dessus du sol et soulève l'intérieur de notre poitrine comme une pointe de parachute. Au-dessus du jaillissement fixe des antennes, derrière les couronnes oscillantes des arbres, au milieu des buissons qui verdissent, dans le fond vitreux des yeux de ceux qui passent, entre les déchirures des nuages qui filent très haut là-bas, existence autre. Dévoile-nous encore et toujours ton visage aux couleurs splendides. Ne nous laisse pas seuls avec la vibration artificielle de nos machines à la vie courte, sinon bientôt l'électricité va pompeusement entourer le royaume terrestre de son obscurité. Ne détourne pas vers le rêve, les chairs, les bonnes choses durables. Montre-les-nous en plein jour. Mets-les en plein soleil, aussi proche que lointaine, et rends-nous parfois libres pour l'arbre. Arbre. Pour le fleuve. Fleuve. Pour la plaine d'un verre bienfaisant. Pour le dos des montagnes, étincelant siège des dieux, pour les nuages comme avion du matin. Laisse-nous ce soir être ce que nous sommes, les hommes de tous les temps, la lune derrière le branchage, les coquilles d'escargots dans la glaise, et les langues dans nos bouches faisant une seule unité. Pays! Rentre tes drapeaux et tes blasons, valets toutes. Prenez vos hymnes, oubliez vos noms. Chemin qui menait ici, cachez-vous dans le sans-nom. Grand chantier, anime-toi selon le vieux proverbe. Deviens la simplicité sans nom. Que cet endroit n'ait plus de nom ce soir. Qu'il s'appelle lieu sauvage. Et qu'il n'y ait personne à part nous. Nous non plus, nous n'avons pas de nom.
La voix d'Amine Adjina, dans une captation que vous avez généreusement partagée avec nous, Sébastien Kerroufi, de votre mise en scène de Parler Village, on l'entend dès le titre, la question du lieu, du pays, de la terre est très importante. Pourquoi est-ce qu'elle vous a attrapé? Pourquoi est-ce que vous en faites aussi du théâtre, Sébastien? Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse, cette question-là?
Parce que justement, pour la terre, elle est autant douloureuse que... que déclencheuse quoi de quelque chose. Enfin moi c'est cette terre qui m'a c'est ce lieu qui m'a permis de partir et c'est ce lieu qui me permet de créer. Enfin c'est aussi il y a quelque chose d'assez vertigineux, hein. Enfin je me dis ce lieu que mon père a quitté l'Algérie quand il avait 17 ans parce qu'on lui a dit tu vas partir de l'Algérie, tu vas aller en France. Comment ce lieu il l'amène en France, comment de la France il termine dans un foyer Emmaüs, et comment nous, de ce lieu-là, on l'a en héritage, et comment de cet héritage-là, on recrée notre lieu, mais avec ce lieu-là, enfin ce lieu qui se transmet de génération en génération. Enfin, la question de, pour moi, l'héritage d'un lieu, mais elle traverse tout, quoi. Mmh. Et quand même dans le titre, par les villages. Mon quartier, il est en face d'une forêt, en face d'une zone industrielle et en face et entouré d'une zone commerciale. Enfin, il y a quelque chose de par les villages. Le village, nous on a toujours dit ce quartier, enfin notre quartier, on l'appelait le village, quoi. Donc il y a quelque chose du lieu, moi, qui me hante, du lieu où on vit, du lieu où on meurt, du lieu qu'on n'oublie pas, du lieu qu'on veut oublier, ouais. Du lieu qui nous permet de créer, du lieu au final qui, ouais, j'allais dire non, qu'on n'oublie pas.
Dans l'extrait qu'on a entendu, il y a aussi l'idée d'une langue faite dans nos bouches, une langue unique, une langue d'une seule unité. Et elle a toute fin aussi de cette prise de parole dans la mise en scène de Sébastien Kérouffi. Et dans ce moment-là, ils montent les uns après les autres sur une glacière. Il y a aussi, je disais, un chantier de paroles, mais il y a vraiment cette idée-là que d'un seul coup, le retour de ce frère et de ce frère écrivain dans le village fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour que ça puisse se dire, mais qui va vers le sans nom. Et ça, je trouve ça très important, l'idée du... Ça me fait penser aussi à Ulysse et le personne dont vous parliez, Claire Le Chevalier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, Claire Le Chevalier, dans la lande de Peter Handke, qui à la fois travaille un territoire très précis, le village dans lequel on ferait retour, la famille, les liens du sang, les frères, les sœurs, et en même temps, il passe son temps à dire effacer les noms, enlever les drapeaux, aller vers le personne, quoi.
Oui, alors précisément, effectivement, et ça rebondit un peu sur la question du lieu qu'évoquait Sébastien Kérouffi, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier mouvement, on a effectivement un retour vers ce que pourrait être le natal, enfin ce qui est le natal, entre guillemets, officiel, justement, les drapeaux, comme vous pouviez dire, et c'est-à-dire avec cette tentation, en fait, du retour vers le natal, et cette tentation et ce désir de retrouver le natal, quelque conflictuel il puisse être. Et en même temps, précisément, ce que montre la pièce, enfin, ce que fait ressentir la pièce, c'est l'idée que ce retour est impossible. Et que, enfin, ce qu'on retrouve effectivement, d'une certaine manière, avec Ulysse, qui ne reconnaît pas Ithaque, et que Ithaque ne reconnaît pas forcément non plus au départ. Et donc, il y a une nécessité du décalage, du décadrage, et précisément de l'effacement de ce qui pouvait être cette conception du natal pour en fait une forme de dépaysement, voilà, et que c'est dans le dépaysement que on va pouvoir en fait trouver le natal, et donc ici dans le dépaysement de l'écriture, il y a aussi cette idée là que c'est dans le dépaysement de l'écriture et dans justement l'idée de regarder, de voir les choses du quotidien en fait sans le rapport peut-être à la tradition. Et il me semble qu'une des grandes questions précisément de la pièce, c'est cette question justement de la transmission, de ce qui peut précisément se transmettre d'un héritage, parce qu'on parlait de l'héritage tout à l'heure du lieu, qui ne serait pas l'héritage porté par la tradition. Enfin, je ne sais pas si je suis
assez claire. Si, vous êtes très claire, et vous êtes d'autant plus claire, que vous êtes paradoxale. C'est-à-dire que, à la fois, on sent bien que dans cette pièce-là, Peter Handke et le personnage de Grégor cherchent une langue nouvelle, mais tout le monde cherche une langue nouvelle pour se dire, pour dire son réel, pour dire les liens, pour dire les lieux. Et en même temps, cette langue nouvelle, c'est comme si elle avait besoin de retourner vers le très ancien pour se trouver. Donc, il y a ce qui est sublime dans Par les villages, c'est que le fond, ce qui est raconté et la forme que ça emprunte est tout le temps en tension et tout le temps en dialogue. Je voudrais qu'on reste sur ce terrain de la langue, Sébastien Kérouffi et Claire Le Chevalier, parce que bon, le fait que ce personnage principal soit écrivain est important. Et dans son retour, il y a la promesse et la menace qu'il puisse écrire sur eux. Tout le monde le désire et tout le monde le craint. Tout le monde veut être raconté et personne ne veut être emprisonné dans le discours de l'autre. Est-ce que ça aussi, ça vous intéresse dans le geste théâtral que vous faites, Sébastien Kérouffi, c'est-à-dire représenter mais ne pas emprisonner dans une représentation?
Bah complètement. Enfin, tout le projet, moi, naît de cette énigme de comment on représente sans enfermer. Et justement, c'est pour ça que la présence du cœur pour moi était importante. Et justement, pour rebondir sur la question du théâtre antique aussi.
Est-ce que vous pouvez préciser cette présence du cœur ?
La présence du cœur, c'était de se dire comment on représente un territoire, en l'occurrence, où là, Ivry-sur-Seine. Comment on représente Ivry-sur-Seine ? C'est extrêmement difficile de représenter un territoire. On se pose la question sur un élément scénographique, après sur ouais, un geste esthétique, et après, en fait, il n'y a rien que mieux qu'un territoire, pour représenter un territoire, que les gens qui y habitent. À partir du moment où il y a 87 personnes d'un territoire sur scène, on a une fresque. Cette fresque, elle empêche la représentation et en même temps, elle décrit quelque chose. Ces corps, ces visages, ils décrivent quelque chose et en même temps, ils conservent toutes et tous leur énigme.
Oui, il y a quelque chose aussi, puisque vous parlez beaucoup tous les deux du tragique de ce texte-là, du poème dramatique, c'est qu'on sent que ces corps que vient revisiter Grégoire, et pas seulement ses frères et sœurs, pleurent le fait de peut-être n'être rien dans les livres d'histoire. Pleurent le fait de n'être jamais inscrit. Et en même temps, il voit arriver ce Grégoire en se méfiant de ce qu'il pourrait faire avec son nouvel art de écrire et écrire des textes.
Complètement. Il y a aussi la différence entre l'écrivain quand Hans il dit peut-être a-t-il une autre façon de nous écouter et il est des nôtres. Il se gratte aux mêmes endroits. Il y a quelque chose de il est comme nous mais il nous écoute différemment. Et je pense que pour moi toute la question même de l'artiste, c'est comment on arrive à écouter différemment, à lutter contre le flot de la société pour essayer d'arriver à ce que nomme Peter Handke en citant Nietzsche dès le début, une tendre lenteur et le tempo de ce discours. Comment on revient à cette lenteur ? Comment on prend le temps de dire ? Parce que Peter Handke, il dit que ce n'est pas des monologues, c'est des personnes qui prennent le temps de parler longtemps et de dire réellement tout ce qu'ils pensent. C'est pas des monologues, c'est juste, il y a cette prise de parole et la présence de l'artiste, la présence de l'écrivain, la présence du frère amène les autres à dire. Pas à faire, parce que la seule action, elle est dans la langue. Ce qui avance en permanence dans ce texte-là, c'est la langue. C'est mot après mot, cette action-là. Et ce que je trouve ça sublime, quoi. De se dire, il y a rien d'autre que les mots. Et les mots redeviennent la seule action. Et pour moi, on se méfie aussi des mots. C'est-à-dire que c'est l'action pour nous en termes de dramaturgie, mais pour les personnages, les mots sont dangereux. Malheur à toi si tu oses décider qui nous sommes. Un mot d'interprétation, la fête est finie.
Là, vous citez Handke.
Là, je cite Handke. Je cite le personnage de Hans qui dit ça à son frère Grégoire.
Il le menace.
Il le menace. Évidemment qu'il le menace. Parce qu'il sait que c'est un écrivain. Et Peter Handke, il a écrit Par les villages.
C'est vraiment le loup dans la bergerie, on voit ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, il y a aussi ce personnage de la vieille femme qui est interprétée par Anne Alvaro dans votre mise en scène, Sébastien Kerouffi, qui est dans un cimetière. Et qu'est-ce qui se passe dans un cimetière ? Il y a le nom des morts, il y a quelque chose de l'inscription. Et puis, vous parlez tous les deux avec Claire Le Chevalier de la transmission. Bon, ils sont inquiets de cela en même temps qu'ils craignent. Je voudrais qu'on écoute Peter Handke dans une archive du 8 juillet 2013 au micro de Virginie Bloch-Lenay.
Par les villages, c'est entre les deux. La beauté, l'amour d'un pays et aussi la déception, pas seulement la déception, aussi l'horreur de l'histoire. J'ai écrit cette pièce quand j'ai vécu à Salzbourg en Autriche et je suis rentré après une absence de peut-être 20 ans. Je suis retourné en Autriche et Salzbourg, c'est une ville pas vraiment typiquement autrichienne. Ça faisait partie d'un épiscopat pendant longtemps, en 19e siècle. Moi, j'étais à l'époque très ambigu quand j'ai écrit la pièce. Mais je voulais quand même conquérir mon pays. Je ne voulais pas l'abandonner et je ne voulais pas m'abandonner moi-même. Alors, pour ça, j'ai écrit la pièce, pour les deux, pour retrouver la patrie et pour pester aussi.
Retrouver la patrie et pester contre celle-ci, Claire Le Chevalier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ambiguïté ? Comment est-ce qu'elle se retrouve dans le poème même du texte ?
Elle se retrouve effectivement peut-être dès le départ, hein, dans le fait que Hans et Grégoire sont frères et qu'en même temps, ils sont de la même famille et qu'en même temps, ils se sont tout de suite séparés. Donc en fait, il y a une problématique familiale qui va dire de façon symbolique aussi justement la problématique de la séparation et de l'ambiguïté plus large que Peter Handke évoque là du point de vue entre guillemets national. Voilà. Et donc en fait, toute la tension entre les frères et l'ambivalence de cette tension représente même jusque dans les corps ce qu'il explique là. Et cette tension, on la retrouve aussi à travers la question de la langue, hein, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, et à travers cette idée que, précisément, si Peter Handke dit, en fait, il dit que s'il a besoin de passer par la langue étrangère, alors ici, le grec, par exemple, mais à d'autres moments, il a traduit du français, il a traduit de l'anglais, enfin bon, ben ici, en tout cas, voilà, c'est pour aussi pouvoir rénover sa propre langue, qui était chargée d'une histoire, en fait, qui était une histoire complexe et ambivalente. Donc en fait, c'est tout un mouvement, on pourrait dire presque, de retraverser des formes, des thématiques pour se reconfronter par la création, donc en fait, par l'imaginaire et par le symbole, par le symbolique, en fait, à ce déchirement qu'il exprime là dans l'archive que vous venez de présenter.
Voilà. Il y a aussi quelque chose, moi, que j'avais tellement plaisir à réentendre en allant voir la mise en scène de Sébastien Kérouffi, c'est le fait que dans la manière même dont ces prises de parole, donc qui ne sont pas des monologues, qui sont des adresses, dans la même manière dont la langue de Handke avance et ça recule. Ça dit quelque chose et ça dit son contraire. Ça met de la lumière et ça met de l'ombre. Ça peint un truc en bleu. T'as l'impression qu'il y a du bleu partout et hop, ça te demande de l'oublier immédiatement. Il y a vraiment quelque chose de très impermanent dans son poème. Et pourtant, eh ben la beauté nous envahit quand même, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment en tête Albin, le personnage d'Albin, monté sur sa glacière, nous racontant une virée de la veille. Et c'est, je sais pas, moi, j'avais l'impression que ce jeune comédien me disait, tiens, voilà de la beauté, prends.
Mais complètement, bah c'est là la magie de l'écriture de Peter Handke, c'est qu'en fait, il donne le véritable poème aux ouvriers, c'est qu'il donne même pas à Hans le frère, il donne à Anton, Albin et Ignaz et l'intendante. C'est que le poème du poème dramatique, c'est pour les ouvriers.
Le moment véritablement poétique, on va dire. Voilà, c'est un peu moins narratif,
exactement.
Un peu moins dialogué. Ouais.
Le poème, parce que ce qui raconte l'aventure de comment leur aventure, quoi, de comment ils se sont rencontrés, etc. Le réel poème, il est donné aux ouvriers. Et pour revenir sur la question de l'interprétation, quelque chose qui nous échappe, à chaque fois qu'on a essayé de définir, mais ce qu'on essaye de faire actuellement, à chaque fois qu'on a essayé de définir ce texte-là, il nous échappe.
Mais comme le texte le dit en permanence,
mais c'est fou.
Ne le faites pas.
Mais c'est impossible.
Ne vous aventurez pas à me définir, car j'échapperai. C'est ce que dit Nova à la fin dans ce très long monologue. Et il me semble que c'est très important de dire que ce monologue de la fin ou cette adresse de la fin portée par Nova, c'est quelqu'un d'un autre village. C'est une voix d'ailleurs qui le porte.
Complètement.
Comment l'avez-vous traité, Sébastien Kérouffi, en confiant cette parole à Cazet?
Bah parce que Cazet, ça rebondit sur ce qu'on se disait au début. Moi, Cazet, c'est ma littérature. Cazet, c'est ma littérature, parce que tout à l'heure, quand vous avez diffusé le morceau, moi, je ferme les yeux, j'écoute et je me dis, mais en fait, je n'ai pas lu de 4 ans à 25 ans. J'ai lu tous les jours. Mais j'ai lu par l'oreille et j'ai lu par d'autres artistes. J'ai lu par un autre outil. Et en fait, Cazet, elle écrit.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Cazet, elle écrit et moi, c'était ça, donc cette littérature-là. Et donc, très vite, quand je me dis, mais Nova, c'est qui Nova, mais Nova, moi, c'est ma légende de chez moi. Ma légende de chez moi, c'est Cazet. C'est cet artiste qui vient d'un village pas très différent du mien. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi que...
C'est le début du... Elle dit ça. Ce n'est que moi, originaire d'un autre village pas très différent.
Exactement. Donc, ça veut dire que je ne viens pas de ce quartier-là, mais je viens d'un autre quartier pas très différent.
Et j'ai quelque chose à vous dire.
J'ai quelque chose à vous dire, exactement. Et oui, le danger existe, et c'est grâce à lui que je peux parler comme je vais parler dans La Résistance. Aussi, écouter mon poème dramatique. Et là, on re-rentre. Et donc, c'était pour moi très vite de se dire, mais c'est qui les poétesses, là, de notre époque? Bah, Cazet, pour moi, c'est l'une des plus grandes poètes qu'on a actuellement. Et donc, après, on a travaillé ça, avec beaucoup d'humour aussi. Pareil. Avec beaucoup de bienveillance. Et avec beaucoup d'amateurisme.
Et on parlait de la présence des langues étrangères dans la langue de Handke, nourrie de ça, vous laissez exister la langue arabe, vous laissez exister le créole, où ça surgit, c'est encore plus beau, on écoute Cazet.
Ce qui s'est passé entre vous, que ce soit votre dernier drame, Faites que ce qui vient d'être dit n'ait pas été dit. C'est l'homme en nous. Y'a pas grillant les grillas sous ses traces, béton grillas. Mais jaune dans les jaunes, dans feuille jaune, c'est fléa. Et fléa, caché bécoy, doubout, la douette, et puis ouo. Qu'on voit secrète en nous. Oui, s'incliner devant une fleur, c'est possible. L'oiseau dans les branches, on peut lui adresser la parole, et son vol donne du sens. Dans ce monde apprêté de couleurs artificielles, retrouver les couleurs vivifiantes d'une nature. Le bleu des montagnes est, le marron des étuis à revolver n'est pas, et ce ou celui que l'on connaît par la télévision ne le connaît pas. Marcher dans la grande plaine où les trous des poteaux s'alignent déjà, proche les couleurs, lointaines les formes, les couleurs à vos pieds, éclatantes, les formes dans vos têtes, la force qui vous tire, formes et couleurs vous protègent. Et ne croyez pas aux monts terrestres. Elles sont une affaire d'humeur. Les sommets les plus hauts, on ne peut pas les conquérir. On ne peut y monter qu'en promenade. Entrez dans l'instant du soleil levant qui sera votre mesure. Rien que le soleil et vous. Et le soleil vous fait signe de continuer. Le soleil aide.
Ah là là, j'ai été tentée évidemment. Bon, ça dure longtemps, c'est un moment très important, c'est le final de votre pièce, Sébastien Kerouffi. On entend Kazek qui interprète Nova. Et je voulais entendre cette phrase parce que moi, le soir où j'y suis allée, je l'ai beaucoup entendue, ce soleil aide. Et je pense que si Peter Handke avait écrit cette pièce 40 ans plus tard, tout ce qu'il dit de la nature ou du paysage, il le dirait peut-être avec les mots d'aujourd'hui qui seraient le vivant. Ça tend vers le vivant, cette pièce-là, vers les formes, les couleurs, les coquilles d'escargots dans la glaise. Est-ce que c'est aussi une autre manière de l'entendre que de tendre l'oreille vers ça aujourd'hui en 2025?
Complètement. Il y a quelque chose de la métamorphose des paysages que nomme en permanence Peter Handke. C'est avant même d'être pour moi une tragédie sociale, c'est une tragédie environnementale. C'est comment la transformation du village. C'est le village, comment il laisse place au béton, comment toute la vallée est maintenant pleine de panneaux, de signalisations, c'est ce que nomme Peter Handke. Donc, cette métamorphose du paysage, moi j'ai l'impression qu'il avait compris beaucoup de choses en l'écrivant. Sur la question même du changement de classe sociale, de la question de la métamorphose des paysages, la question de le fait à quel point on doit maintenir la place des artistes, mais dans tous les territoires.
Oui, ça se termine par passer par les villages, mais aussi suivez comment. C'est quoi? C'est suivez toujours le poème dramatique?
Oui, c'est aller éternellement. C'est suivez.
Aller éternellement à la rencontre, passer par les villages, justement, laisser s'épanouir les couleurs, suivez ce poème dramatique.
Mais c'est comme si. Et nous, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de le redécouvrir. C'est en ça aussi que c'est impossible de se dire j'ai compris ce poème. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de. Qui nous échappe dans la poésie.
Et tant mieux.
Et je pense que ce texte nous échappe. C'est en ça que moi, c'est extrêmement difficile pour moi d'en parler. Autant que je pense que pour Peter aussi, parce qu'il y a la douleur, mais il y a aussi quelque chose qui, peut-être qui lui échappe. Et comme dans la mise en scène, moi, chaque soir, j'ai l'impression que c'est une première et je suis... Mais je me dis, je ne ferai pas ce métier longtemps parce que ça me...
C'est fatigant, les gars.
Ça me fait peur. Non, mais ça me fait peur, quoi. Je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe chaque soir.
Justement, il y avait la voix de Émilie, notre auditrice tout à l'heure qu'on a entendue et qui est venue voir votre mise en scène et qui a lu et beaucoup offert Peter Handke et qui se demandait si vous aviez ressenti un vertige devant cette pièce, qui est un grand texte et comment est-ce que vous étiez débrouillé.
Mais le vertige, je l'ai encore. Hein. Là, on reprend le 22, mais j'ai super peur. Mais j'ai peur chaque soir et je pense que tout le monde a peur. Et même dans l'équipe, hein, j'en parlais avec Reda Kateb, qui... Il me dit, mais j'ai super peur, là, de ce retour au théâtre avec ce texte-là. Enfin, il y a quelque chose de... Mais même avec Kazé, enfin, il y a quelque chose de vertige, parce que ce texte, il est plus grand que nous, de toute façon. Moi, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que... Soyons juste à la hauteur de la langue du texte. Mmh. Essayons de s'y rapprocher. Ça sert à rien de se mettre devant le texte. Le texte sera plus fort que nous, plus fort que notre interprétation, plus fort que tout. Donc, passons ces mots... Et peut-être que ce vertige, il sera plus facile à approcher. Et c'est au début de la création, moi, je parlais souvent avec Stanislas Nordet, qui a monté ce texte-là en 2013 au Palais des Papes à Avignon. Et Stanislas me disait, pendant longtemps, me disais même, je pense, pendant toute ta vie, tu vas rechercher un texte qui sera aussi impressionnant que celui-ci. Qui va te... C'est une montagne. Par les villages de Peter Hanke, c'est une montagne.
Et si on veut atteindre le sommet, il faut y aller en promenade.
En promenade, c'est vrai.
On a évidemment beaucoup parlé de votre rapport au texte, Sébastien Kérouffi. Il y a d'autres émissions où vous avez eu l'occasion de parler de théâtre, c'est très important. Je n'exclus pas, en ne vous interrogeant pas là-dessus, les gestes théâtraux pardon, que vous faites dans cette mise en scène. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, 15h50, le mardi, on vous retrouve, vous, Nicole Vulzer. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Vous éclairez pour nous un aspect économique du monde des livres. Et aujourd'hui, vous êtes allée au musée, vous vous intéressez à ce petit club bien refermé que sont les librairies de musée.
Absolument. À l'occasion du salon Muséum Connexion, qui se tient jusqu'à demain Paris-Porte de Versailles, je voudrais vous parler de librairies extrêmement atypiques, celles des musées. Elles reçoivent les touristes ou les amateurs d'art qui sortent d'une exposition. Souvent, elles vendent plus de souvenirs que de livres. C'est l'une de leurs particularités. On trouve à l'appel des produits dérivés, des magnets à coller sur les réfrigérateurs, des crayons, de la papeterie, des cartes postales, des jeux pour les enfants, des bijoux, parfois des foulards. Des objets plus ou moins chics, un inventaire à la Prévert donc. Mais les livres ne représentent par exemple que 30% du chiffre d'affaires du Grand Palais Réunion des Musées Nationaux, ou Grand Palais RMN. Cette institution publique est de loin le principal acteur de ce marché. C'est elle qui veille aux destinées des librairies implantées dans 36 établissements, entre le Louvre, le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, le Musée Guimet et le Musée Picasso, et j'en oublie. Dans ces très grands musées, les millions de touristes étrangers se disent qu'ils pourront toujours acheter un catalogue en ligne. Ils préfèrent le plus souvent acheter un souvenir.
Bon, et puisqu'on est là pour parler avec vous argent et économie, comment s'organise ce marché très spécifique ?
C'est une vraie bataille, Marie. En 2009, le Grand Palais RMN, qui s'appelait alors la RMN, a perdu son monopole. Depuis, un appel d'offres doit être lancé par les musées pour confier leur librairie à un opérateur qui obtient un contrat de concession d'au moins 6 ans. De nouveaux acteurs ont donc fait leur apparition et ont obligé la RMN à se moderniser. Aujourd'hui, le deuxième acteur de poids, c'est Arteum, qui a démarré en 2013 avec la librairie du Musée des Arts Déco, avant de gagner le Quai Branly, la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier ou le Musée Matisse à Nice. Des financiers français et belges, comme la famille Dassault, sont actionnaires de ce groupe. On compte aussi deux autres acteurs importants, le Centre des Monuments Nationaux, un autre acteur public, qui gère une centaine de monuments dans toute la France, depuis l'abbaye du Mont-Saint-Michel au château d'If, en passant par la Conciergerie ou l'Arc de Triomphe. Le CNM gère en direct ses 80 librairies boutiques. Et puis, un quatrième acteur indépendant, la Boutique du Lieu, qui a démarré avec la piscine à Roubaix, gère une dizaine de musées, à Lille, Villeneuve-d'Ascq, le Louvre-Lens, Pompidou-Metz, ou encore la Bourse du Commerce à Paris. Lui est le seul à vendre une majorité de livres.
Alors, quels sont les critères des musées pour choisir ces fameux opérateurs de librairies ?
D'abord, c'est l'offre, l'équilibre qui sera proposé entre les livres et les autres produits, puis le dispositif de vente en ligne, l'aménagement de la librairie et les efforts en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, critère majeur, les clauses financières. Chaque concurrent devra payer une part fixe, un minimum garanti, et aussi, c'est là où tout se corse, une rétribution sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la librairie. C'est le nerf de la guerre, puisque cette boutique doit rester rentable, et c'est aussi ce qui peut permettre de gagner le marché. Tous les acteurs m'ont opposé le secret des affaires quand je leur ai demandé quel était le montant de ce pourcentage. Tant pis, ils m'ont quand même avoué que les objets leur permettaient de faire une marge bien plus importante que celle des livres, même si tous sont fort bien négociés la part que leur laissent les éditeurs sur la vente de chaque livre. C'est un peu comme un jeu de go. Certaines boutiques sont prises aux concurrents, d'autres sont conservées vaillamment. Ainsi, le Grand Palais RMN a depuis juin 2024 réussi à conserver le Louvre et Versailles et a gagné coup sur coup le musée de l'Orangerie, la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris, ainsi que le musée de l'Armée.
Bon, et quand de temps en temps quand même les visiteurs et les visiteuses achètent des livres, est-ce que ce sont les catalogues d'exposition qu'ils achètent le plus ?
Oui Marie, le chiffre d'affaires des librairies est très directement corrélé à la fréquentation des expositions, ce qui explique le pic des ventes des catalogues pour l'exposition Arte Povera à la Bourse du Commerce, ou celle sur Lacan à Pompidou-Metz, par exemple. Ce qui n'empêche pas certaines librairies de garder un fonds très important. On peut trouver des carnets de pas de danse à la librairie de l'Opéra Garnier. Même si son fonds a baissé depuis 10 ans, la librairie du Louvre propose encore 9000 ouvrages différents, celle du Mucem plus de 7000. La librairie du Jeu de Paume, qui n'appartient à aucun de ces 4 acteurs, est sans doute l'une des mieux loties pour trouver un livre de photographie, chère Marie. Et puis, une autre satisfaction, à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, la librairie est devenue celle des habitants de cette petite ville de l'Aisne. Ils y passent sans pour autant voir les expositions.
Et là, du coup, c'est tout bénef. Merci beaucoup, Nicole Vulser. Moi, je pensais aussi à la librairie de la Maison européenne de la photographie à Paris, qui a un très beau fond de livres, et pas seulement sur la photographie. Passionnant.
Excellente.
Économie du livre à réécouter sur franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue avec nos auditeurs et auditrices à chercher de la musique dans les livres. Aujourd'hui, c'est Élise qui nous a soumis un extrait d'un roman. Donc oui, pour jouer, eh bien, vous nous envoyez des photographies, des textes que vous êtes en train de lire, donc ou bien par le compte Instagram du Book Club de France Culture, ou bien par l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Et du coup, ça me fait toute une collection d'extraits où vous trouvez de la musique. Donc Élise nous soumet un extrait d'un livre qui s'appelle Les Dragons, paru en 2023 aux éditions Alary et signé Jérôme Collin. Voilà ce que nous dit le résumé de l'éditeur. Les Dragons, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre adolescents. Jérôme a 15 ans, il est en colère contre ses parents, contre le monde, contre les monstres, contre lui. Et sur décision de justice, il est interné dans un centre de soins pour adolescents. Là, il rencontre les Dragons, qui sont ses enfants détruits par leur famille, l'école ou l'époque. Et parmi ses enfants, il y a Colette. Et dans l'extrait qui est choisi par notre auditrice Élise, on le voit entrer dans le centre. Elle s'est enfin retirée pour nous laisser un peu d'intimité. « Fais attention à toi ici », a dit ma mère, « et respecte les règles. » Mon père a enchaîné « Essaie de te reprendre. La vie, ça peut être mieux que ça. » Ma mère m'a serrée dans ses bras. Mon père l'a imité. Elle a retenu ses larmes et ils sont partis. Je ne les ai pas regardés s'éloigner parce que moi aussi j'aurais pu pleurer. Ils ont dû entrer dans leur voiture, mettre leur ceinture de sécurité. Pour couvrir le silence, mon père a probablement enclenché une cassette dans le lecteur et ils ont écouté Hotel California. Merci beaucoup Sébastien Kérouffi d'avoir été avec nous pour parler de cette mise en scène de Par les villages de Peter Handke. Vous serez donc à Ivry du 22 au 26 janvier prochain, mais aussi bientôt à la Filature à Mulhouse, à Corbeil-Essonne, à Meudon-la-Forêt, au Printemps des Comédiens, à Montpellier. Merci à Claire Le Chevalier d'avoir été avec nous. Vous nous entendez encore ?
Oui, merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous à distance. On peut réécouter le Book Club franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Au son, aujourd'hui, c'était Cassandre Puel. Non, pardon, à la réalisation, c'était Cassandre Puel. Et à la prise de son, Grégory Wallon.